Jean-Marcel Doriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours un petit peu impliqué d'ailleurs quand même dans tout ça, directeur de recherche à l'INRA, qui est l'Institut National de Recherche Agronomique, qui était installé, qui est toujours installé d'ailleurs à Thonon, j'imagine, au bord du lac. Hein.
Absolument.
On parlera d'ailleurs un petit peu du rôle de l'INRA à Thonon éventuellement. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous venez de coordonner l'écriture d'un livre qui s'appelle « Les grands lacs à l'épreuve de l'Anthropocène ». Alors les grands lacs, on en a un à côté de nous, hein, qui est le Léman, bien sûr, qui est le plus grand d'Europe, effectivement, mais il y en a aussi beaucoup d'autres dans le monde. Alors, un petit mot peut-être sur votre fonction et puis sur l'INRA, que tout le monde ne connaît pas forcément.
Moi, j'ai travaillé sur plusieurs thèmes de recherche pendant toutes ces années. Et donc, le travail consiste à essayer de faire avancer les connaissances sur un sujet et à reposer les nouvelles questions pour nos successeurs, puisque ce qui progresse, c'est à la fois les connaissances et le manque de connaissances que tout d'un coup, on découvre au fur et à mesure que ça progresse. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur des questions qui ont rapport avec la manière dont les bassins versants influencent l'état des lacs. Alors, le bassin versant, c'est l'ensemble du territoire qui alimente en eau et en tout ce que transporte l'eau un lac. Donc, vous voyez, pour notre lac, il est particulièrement grand.
Voilà, d'où l'explication de la présence de l'INRA à Thonon-les-Bains, peut-être.
Alors, la présence de l'INRA, elle date des années 60. Et donc, le laboratoire s'est développé à l'époque où le lac était assez fortement pollué.
Ah oui, mais c'est vrai, il faut se
rappeler dans le cadre des besoins qui alors se faisaient sentir de maîtriser cette pollution dans un cadre franco-suisse. Et donc, c'est à partir de là que ça s'est développé. Parce qu'on a un peu oublié que le lac a été pollué.
C'est
parce
vrai.
Que maintenant, il est très, très clair. Mais on ne se souvient plus que,
à
cette époque-là, dans les années 70-80, quand on allait se baigner, qu'on avait de l'eau jusqu'aux épaules, on ne voyait plus bien ses pieds. On a oublié un peu ça.
Et y avait
donc,
surtout,
nous, on est aussi un peu là pour éviter l'amnésie.
Voilà. Il y avait naturellement tout ce qui entrait dans le lac, quand il n'y avait pas encore d'égout, peut-être, traité.
Il y avait bien déjà des égouts, mais il n'y avait pas encore un traitement suffisant.
C'est ça.
C'est vrai qu'on... Ouais. Il y a eu une prise de conscience et une prise de décision tout à fait remarquable qui a permis de retrouver, à peu près 20 à 30 ans plus tard, la prise de décision, un lac dans un état relativement exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît des autres grands lacs mondiaux situés dans des contextes socio-économiques équivalents aux nôtres.
Alors c'est ce qui nous amène un petit peu sur notre conversation en off, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et la preuve, là, avec les solutions qui ont été trouvées pour le Léman en particulier, mais aussi je crois que c'est la même chose pour le lac d'Annecy et d'autres lacs en France, sans doute, que quand il y a une décision politique et quand on part dans le bon sens, on peut des fois renverser la vapeur. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le faire au niveau de la planète, mais en tout cas, au niveau des lacs, c'est un petit peu peut-être l'objet de votre réflexion dans ce livre, sans doute.
Notre réflexion, c'est de voir, quand on a essayé de réparer les dégâts qui avaient été faits à une époque où le lac servait un peu de déversoir toutes eaux usées, non vraiment suffisamment traitées. On a essayé de les réparer, dans quel cas on a réussi à traiter les problèmes, dans quel cas on n'a pas réussi, et de mettre notre réussite relativement exemplaire, mais si on en reparlera sûrement, attention, elle est fragile, relativement exemplaire en ce qui concerne le Léman, parce que le lac d'Annecy, il est plus petit, il n'a jamais vraiment été pollué, et ce n'est pas tout à fait la même situation, ce n'est pas une comparaison totale possible. Pourquoi notre situation assez exemplaire, elle ne s'est pas reproduite ailleurs ? Et elle ne s'est pas reproduite pour d'autres sujets, quand on a voulu lutter contre la perte de biodiversité. Donc c'était un peu comme si on avait fait une espèce d'inventaire des soins qu'on avait portés face à des maladies de grands lacs. Et donc on va faire le bilan. Un peu, voilà. Et le bilan de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qui a été un obstacle, ce qui a été une facilitation, etc.
Bien sûr. Parce que des grands lacs dans le monde, il y en a énormément quand même.
Alors ça dépend ce qu'on appelle un grand lac.
Oui, d'accord.
Alors la définition qui a été retenue, c'est plus de 100
km². Ah oui.
Voilà. Alors il y en a qui disent 500, bah, vous savez, il y a toujours des écoles. Hein.
Oui, bien sûr.
Même pour le nom des fleurs, alors pensez bien pour les lacs. Mais un grand lac, c'est quand même pas juste un petit lac un peu dilaté. Hein, ce n'est pas juste la taille XXL pour les petits lacs. Ça a des propriétés particulières du fait de sa taille. Et ces propriétés particulières, en premier lieu, c'est qu'il y a un brassage et des courants qui n'existent pas dans les plus petits lacs. Il y a des vagues. Et les petits lacs, ils ont un clapotis. C'est pas vraiment des vrais qui ont, dans lesquels on a une masse d'eau qui se déplace et qui donc va avoir une puissance mécanique qui s'exerce sur le littoral et qui va modeler le littoral. Nous, on le voit bien. Il suffit d'aller à Ripaille, le long du mur. On voit très bien la puissance des vagues. Elle est suffisante de temps à autre pour modeler le littoral. C'est pas pareil si vous allez au lac de Montrion.
Complètement. Voilà. C'est sûr.
Et puis peut-être ça, on le sait moins, mais ils sont sensibles. Nous, le lac Léman est sensible à la rotation de la Terre. Et donc, il y a tout un ensemble de courants qui sont liés au vent, qui sont liés aux différences thermiques entre les couches d'eau. Enfin bon, ça, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas rentrer dans les super détails. Mais tout cet ensemble de courants qui brassent le lac font de ce milieu un milieu écologiquement particulier. D'autant plus que, comme il est grand, il a aussi une biodiversité un peu particulière. Bon, nous, on n'a pas de gros animaux comme dans le Baïkal, où ils ont des phoques.
Oui.
C'est dommage. Mais bon, on les a pas. Mais plus le lac est grand, plus il accepte des prédateurs de grosse taille et plus il y a des tas de niches écologiques ou d'habitats qui sont un peu particuliers et qui font que le lac, avec sa taille, il devient un enjeu particulier pour la biodiversité.
Bon, on le voit d'ailleurs avec ces très gros poissons, hein, rappelez-moi le nom.
Les silures.
Les silures, absolument. Ouais,
alors ça c'est une espèce qui est venue d'ailleurs. Mais c'est vrai, un silure, il ne pourrait pas vivre dans le lac de Montrion.
Non.
Enfin, un peut-être, mais il n'aurait pas de descendants, il n'aurait pas une population, etc. Oui, bien sûr, la taille du lac, elle sélectionne les populations et la manière dont les populations vivent les unes avec les autres.
Absolument. Alors ce livre, il est à destination naturellement du grand public, parce que c'est assez important aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais j'imagine que c'est un petit peu un guide aussi à l'attention des décideurs politiques en particulier.
Vous avez tapé pile. On va être très intéressé par tous les retours provenant du grand public, surtout si on a l'occasion d'en reparler, je ne sais pas, dans le cadre de conférences ou quelque chose comme ça. Bien entendu, les étudiants, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui s'intéressent aux questions environnementales, et les grands lacs, ça pose des questions assez fondamentales. Et puis, on s'adresse aux décideurs. Alors, aux décideurs, y compris à nos décideurs limaniques. Parce qu'en fait, on veut bien leur montrer que le lac Léman, on a une chance extraordinaire d'avoir pris la bonne décision au moment où il fallait la prendre, qu'il a remis en bon état, et maintenant on peut être content de voir comme il est. Mais en même temps, il ne faut pas ni baisser les bras, se cacher derrière la réussite pour arrêter de continuer d'être vigilant.
Voilà, d'autant plus qu'il y a quand même d'autres pollutions qui ont fait leur apparition. On parle en particulier des microparticules de plastique. Ça, je pense que ça a un peu pris la suite peut-être des phosphates qui étaient dans les lessives il y a quelques années.
Oui, absolument. Je veux dire, il y a une espèce de... il y a un lien complètement, pour l'instant, qu'on n'arrive pas à détricoter entre le développement économique et ses différentes phases et successions et les nouveaux produits qui remplacent les anciens, et puis le développement démographique, et en même temps avec les différents types de pollution qui ont atteint le lac. Au début, c'était les pollutions avec des eaux usées qu'on n'avait pas assez bien traitées. Après, on a traité les eaux usées, mais ayant traité les eaux usées, la population a continué à grandir, et on a aussi des pollutions qui sont plus des eaux usées mais liées au ruissellement sur toutes les zones qui ont été artificialisées, et ce ruissellement, il ne transporte pas de l'eau de source. Ils transportent des pneus usés qui s'usent sur les routes, ils transportent de l'usure des toits, des peintures, etc. Et nous, on a de la chance, il n'y a pas trop de pesticides.
Oui, c'est vrai, en plus.
On a une chance. Donc, c'est vrai qu'il y a un cocktail de micropolluants qui, en plus, certains d'entre eux passent à travers les stations d'épuration, comme si de rien n'était. Ils ne sont pas pris en charge. Et le point sur lequel il va falloir une vigilance particulière, d'une part de nos élus, mais il va falloir faire remonter l'information en plus haut lieu pour que les règlements, certains règlements probablement, changent.
Là,
pour maîtriser.
À l'échelle de l'Europe, déjà.
Gouvernementale et européenne.
Oui, absolument. Alors ici, on est dans une zone franco-suisse. Ce guide, enfin ce livre précisément, il peut aussi s'adresser à l'autre côté. Enfin, quoi qu'ils aient peut-être un peu moins en retard que nous, je ne sais pas exactement sur ces domaines-là.
Ça dépend quoi. Il y a des sujets sur lesquels, effectivement, la question était quand même, du côté français, à l'époque des années 80, on était un peu en retard, pour reprendre votre expression, par rapport à la mise en place d'un système super moderne de traitement des eaux usées. Mais il y a quand même eu, du côté suisse, dans la vallée de la chimie, au Rhône, il y a quand même eu aussi des phénomènes qui n'étaient pas normaux, quoi, des usines qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, c'est pas la peine de chercher les responsabilités chez l'autre. Faisons quelque chose ensemble pour qu'on ait un lac top.
Voilà,
c'est ça l'idée.
Comme on le partage, essayons de le soigner en même temps.
Il n'est pas français ni suisse, il est franco-suisse. Hein. Voilà, l'eau, elle circule indépendamment de tout ça.
Très bien. Et puis, alors, naturellement, d'autres lacs que vous présentez aussi dans ce livre, j'imagine, vous avez fait un peu le
tour. Alors, il y a 1709 lacs de plus de 100 km² sur la planète.
Donc, on n'a pas le temps de les ausculter tous, j'imagine.
Non, absolument pas. Ouais, on a pris ceux qui étaient un certain nombre d'exemples types. Mm-hmm. Alors, et on a essayé de regarder comment se distribuaient les maladies de ces grands lacs. Ces maladies, c'est toujours des maladies de civilisation. C'est-à-dire qu'il y a un développement de la civilisation avec certaines composantes de celles-ci qui sont mal maîtrisées, les produits chimiques. Oui. Par exemple, ou l'habitat, ou n'importe quoi, et ou trop de pêche, parce que ça existe aussi dans certains lacs. Et ces maladies de civilisation, elles sont distribuées en fonction de l'endroit, au point de vue géographie physique, donc plus froid, plus chaud, plus etc., et en même temps du type de développement socio-économique.
Très bien. Voilà, bon, c'est une conversation passionnante. J'imagine qu'on pourrait en parler pendant un bon petit moment, effectivement. On espère surtout que les décideurs dont on parlait tout à l'heure... d'abord, il est d'une taille quand même, il n'est pas très épais. Hein, j'imagine
non.
Que vous l'avez voulu un peu concentré. Donc, on peut que leur suggérer de se pencher un petit peu sur la question de le lire. Alors, s'ils ont envie de le lire, justement, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce livre?
D'abord, sur Internet, comme je vous le disais tout à l'heure. D'abord, on a voulu prendre une édition où, effectivement, l'édition papier est payante, mais l'édition Internet, elle est téléchargeable gratuitement.
D'accord.
Hein, ça, c'est pour toucher le maximum de gens, les étudiants aussi, etc. Et puis, autrement, on peut soit le commander auprès de l'éditeur, c'est un éditeur scientifique qui s'appelle Quae.
D'accord.
Quae. Et puis, où on va le trouver dans les librairies de Thonon.
Sans doute.
Bien sûr.
De Thonon, et on espère un peu toute la région dans un deuxième temps, peut-être.
Oui, voilà. Alors, je sais que, par exemple, il va y avoir une présentation du livre du côté suisse dans la revue qui s'appelle Lémanique, qui est la revue de l'association de sauvegarde du Léman.
Oui,
donc là, ça va toucher un public quand même assez large. Un public intéressé et en même temps un public qui a envie d'avoir des références scientifiques pour essayer de mettre un peu d'ordre dans les problèmes quand on peut.
Voilà, mais puis on pourrait conseiller à tout un chacun de le lire parce que c'est notre environnement quand même. Hein,
donc... Oui, et puis vraiment, vous avez bien fait de poser la question parce que en parlant des autres livres du monde, on veut surtout parler du lac Léman.
Oui, bien sûr, on est au bord. Hein, donc,
voilà. Et puis c'est en regardant ailleurs qu'on voit ce qu'on a fait de bien et ce qu'on voit aussi les rechutes après les succès. Et c'est ça sur lequel il faut être vigilant.
Voilà. Et puis pour reprendre une expression qu'on connaît bien, il commence à y avoir un peu le feu au lac quand même.
Hein. Voilà, c'est ça.
Il serait peut-être temps de s'y intéresser.
Il n'est pas trop. Il y avait le feu au lac. Il ne faut pas qu'on l'oublie.
Oui.
Il y avait le
un
feu
peu
au
moins.
Lac. Ouais. Maintenant, il est quand même, connaissant plusieurs grands lacs dans le monde, il fait partie pour autant d'habitants autour, il fait partie des lacs les mieux rescapés de la période du développement tout azimut économique, sans frein. Mais n'empêche qu'il y a des lacs qui sont dans des situations très proches et qui, après avoir eu des périodes de succès aussi éclatants, se sont retrouvés avec des rechutes.
Voilà,
donc c'est là où il faut rester vigilant. On n'est pas revenu à l'état initial. On a réparé le lac.
Oui. Je pense que l'état initial, on ne le retrouvera pas.
Bien sûr que non.
Bien sûr. Bon, on va terminer sur cette séquence positive, effectivement, en se disant que quand on veut s'y intéresser, quand tout le monde essaye de se mettre sur un problème, on peut quand même trouver des solutions. On espère qu'au niveau de la planète, il y a des variations climatiques, on puisse être un peu dans cette veine-là, il y a un peu de travail. Mais ça, c'est un autre sujet. Jean-Marcel Doriot, merci.
Merci.